9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Fadela Méal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu ce dimanche au rendez-vous de Voix au chapitre. On va avoir une jolie conversation, je pense, aujourd'hui avec vous, Fadela Méal, puisqu'on va parler de votre histoire, de qui vous êtes et de cet engagement que vous portez depuis toujours. Vous êtes une militante associative et politique. Et puis, on va commencer par le début. Vous êtes née à Cherchel, en Algérie, et très jeune, la famille arrive en France. Et très jeune, vous aussi, vous allez être attachée à cette vie associative. Quand est-ce que ça commence, tout ça?
Mais écoutez, j'ai commencé par accompagner des enfants de la maternelle, parfois jusqu'en sixième. J'étais en même temps lycéenne, donc je faisais ça pendant les vacances scolaires. Je faisais ce qu'on appelle les centres aérés. Et donc, c'est le premier contact que j'ai eu avec une grande fédération d'éducation populaire. Et voilà, et c'était un engagement très, très fort.
Et cet engagement vous a poursuivi? Engagement associatif, populaire, ça tombe bien, puisque tout au long de votre engagement, vous allez être attaché justement à évoquer cette diversité, à évoquer ce passage de la vie associative à l'engagement citoyen, politique ensuite. Vous allez même avoir des responsabilités hein, plus tard, puisque vous allez être chargée de nommer directrice du FACIL. Le FACIL, c'est le Fonds d'Action Sociale, le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations. Ça va se passer en Languedoc-Roussillon. Vous allez être chargée un peu de tout ce territoire pour développer des actes et des initiatives autour de ces questions d'intégration et de lutte contre les discriminations. La militance et la politique se mêlent, tout ça vous poursuit tout au long de votre parcours et vous allez fonder un peu plus tard les Mariannes de la diversité, où on s'y arrêtera longuement dans une deuxième partie de notre rencontre. Mais vous avez chevillé au corps cette vie associative, cet engagement citoyen et politique, puisque vous allez avoir des responsabilités politiques ensuite, vous allez être élue. Qu'est-ce qui fait que tout cela vous anime en tant que femme dans ce combat? Être féministe et être aussi citoyenne.
Alors, c'est vrai que j'ai un parcours qui est vraiment inscrit dans la durée. C'est-à-dire que j'ai mené des séquences de ma vie qui ont commencé par l'éducation populaire. Vous l'avez signalé. J'ai été directrice d'un équipement socioculturel Maison des Jeunes et de la Culture et d'un centre social dans la métropole lilloise. Pendant 13 ans, je me suis occupée finalement de la jeunesse, de la culture, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et j'étais même au bureau de la mission locale de Tourcoing. Donc c'est d'abord autour de la jeunesse que mon engagement premier s'est fait.
Et sur le terrain en particulier.
Et sur le terrain, toujours sur le terrain. C'est pour ça que l'éducation populaire, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je pense que c'est un espace privilégié pour prendre des responsabilités, pour épanouir et puis pour rencontrer. Moi, je pense que la question de la rencontre, qui est au cœur aujourd'hui de notre société, on le voit bien avec la zémorisation des esprits, la rencontre, le dialogue, c'est quelque chose de très important. Et je suis venue à l'immigration, en fait, de façon opportune, puisqu'il y avait un poste vacant de directeur régional du FACIL que vous avez évoqué, et j'ai postulé. J'avoue, très honnêtement, que j'y croyais pas beaucoup, parce que c'était un poste ouvert à des hauts fonctionnaires, où il fallait connaître vraiment la machine administrative. Et, miraculeusement, si j'ose dire, j'ai été prise, d'ailleurs, ça a suscité quelques remous dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque j'étais la première directrice régionale issue de l'immigration femme. Et je peux vous assurer que ça n'a pas toujours été facile, parce que je me souviens les titres des journaux évoquaient ma candidature en disant « peut-on être juge et parti ?» Juge, c'est-à-dire vous distribuez des fonds, et parti, vous êtes vous-même issu d'immigration, comme si il y avait une incompatibilité à devenir des hauts fonctionnaires en toute neutralité.
Alors justement, ce qui était intéressant dans ce que vous dites là, c'est que vous étiez sur le terrain et après il faut restituer ce qui se passe sur le terrain à l'administration, à l'officiel, aux politiques, et vous aviez justement la détermination effectivement de rendre compte de ce qui se passait. Donc vous connaissiez les dossiers, si je puis dire.
Bah, tout à fait. Vous savez, c'était un territoire. On avait commencé bien sûr par faire des schémas locaux d'intégration, parce que c'était quelque chose qui, le diagnostic, moi c'est quelque chose qui me préoccupait beaucoup. Et c'est vrai que on avait la chance avec le facile de l'époque, c'est d'avoir un conseil d'administration, si j'ose dire, ouvert à la société civile, puisqu'il y avait des personnalités civiles de associatives qui siégeaient pour l'affectation des fonds. C'était pas simplement tous les fonctionnaires qui étaient là pour représenter l'administration. Donc ça, c'est très important. Et moi, personnellement, je me suis toujours battue pour que cet établissement garde sa spécificité, parce qu'il est rare, en effet, que des personnalités puissent siéger dans des lieux où on affecte des fonds. Donc la relation avec le terrain, pour moi, elle est essentielle. Et c'est vrai qu'on a fait aussi... vous savez, c'était une période, je dirais, presque un peu préhistorique. Je vous parle de 96. J'ai été nommée pour la première fois en 96, où on me disait, pour les immigrés, en tout cas les étrangers, eh bien finalement, le problème, c'est eux. Bah oui, ils ne parlent pas suffisamment la langue, ils ne sont pas suffisamment qualifiés, ils ne connaissent pas les codes culturels. Et donc, on était parti, et d'ailleurs l'administration était partie sur ce registre, on va les changer, on va les qualifier, on va. Et ça s'est arrêté le jour où je suis allée à la mission locale de Roubaix, et j'ai vu qu'il y avait plus de 300 RMistes Bac plus 5. Et là, je me suis posé la question, mais comment des personnes RMistes peuvent... qui ont des bagages aussi importants peuvent être au chômage. Et donc, la question naturellement est venue, et si la société d'accueil n'était pas si bienveillante, et si il n'y avait pas, malgré tout, des plafonds de verre qui faisaient que certains ne venaient pas. Et c'est pour ça que à ce moment-là, je crois que ça a été une réflexion très forte, mais il y a eu beaucoup de résistance. C'est-à-dire, on va changer la donne. On va bien sûr continuer à travailler sur les personnes elles-mêmes, mais surtout, on va regarder comment le système génère de la discrimination. Et c'est pour ça qu'on a adossé au face, la lutte contre les discriminations. Et c'était un combat, je ne vous parle pas de ce temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais c'était âpre.
Et alors, ce temps de l'institution qui, aujourd'hui, se bat contre les discriminations, enfin, qui tente de mener un travail contre les discriminations, il existe encore?
Oui, tout à fait.
Il n'a pas le même intitulé,
mais toujours, et ce qu'il y a de plus, qu'il n'y avait pas à cette époque, c'est qu'on a un ministre, madame Elisabeth Moreno, aujourd'hui, elle est chargée aussi de la lutte contre de la discrimination et de la diversité. Donc, il y a une reconnaissance d'un objet réel, alors qu'avant c'était du ressenti, c'est des fantasmes, que moi l'administration peut être discriminatoire. Moi j'avais pointé, quand j'étais directrice dans le Languedoc-Roussillon, que la première discrimination c'était dans les préfectures. La façon dont on accueillait les étrangers pour leurs papiers était une forme finalement de mise à l'écart. Mais vous savez que ça a fait grand bruit, parce que c'est une étude que j'avais demandé à la CIMAD de faire, que j'avais financée, et les préfectures étaient atterrées de voir que il y avait de la discrimination au sein des services publics. Vous savez, sur l'éducation, notre plus grosse difficulté, ça a été de faire admettre que les conseillers d'orientation avaient parfois, je dis pas par malveillance, mais des systèmes qui faisaient que beaucoup de ces personnes dont les origines étaient immigrées, eh bien, on les orientait vers les cycles courts. Et donc, en pensant bien faire d'ailleurs, en disant, mais oui, mais ils ont besoin d'argent, les familles sont dans la précarité, donc il faut qu'ils fassent des...
Des CAP de couture, des CAP d'enseignement ménager.
Exactement.
Des CAP
sans s'interroger.
Pour les garçons.
Exactement, vous avez raison, Samia, sans s'interroger si réellement les enfants et les parents avaient envie de cette orientation. Donc la discrimination, ce n'est pas que du racisme, ça peut être des mesures neutres, mais qui entraînent des mises à l'écart.
On vous retrouve dans un instant, je rappelle que je reçois ce dimanche matin Fadela Méal.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Fadela Méal est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche. Poursuivons notre rencontre, notre conversation. Fadela Méal, donc je le rappelle, vous êtes une femme militante, associative et politique. Et dans tout ce travail que vous menez au quotidien, dans cette vie associative, vous êtes... bien engagé dans une initiative que vous avez fondée qui s'appelle les Mariannes de la diversité.
Tout à
C'était
fait.
En 2005.
Voilà.
Après c'est encore d'actualité, bien évidemment, mais correspondait à quoi? Rappelez-nous peut-être quel sens ça avait de créer, à quoi nous convoquait ce rendez-vous avec les Mariannes de la diversité?
Vous savez, c'est tout simplement, je me suis retrouvée en regardant la télévision, c'était les émeutes des banlieues, et je voyais le feu partout, hein, vous vous rappelez de ces images, finalement, où des jeunes avaient décidé de renverser un peu la République, ou renverser du moins la table. Et donc, je voyais toute cette violence en direction d'ailleurs des populations elles-mêmes, hein, puisque c'était dans ces quartiers populaires. Et à un moment donné, il y a eu une crise telle que certains ont convoqué les parents, et notamment les mamans, les mères. Et je me souviens qu'à l'époque où elle était vraiment, la violence était à son paroxysme, les femmes se sont levées et sont allées... j'allais dire éteindre le feu qui couvait dans le cœur de leurs enfants. Et les femmes, elles ont eu à ce moment-là vraiment beaucoup de dignité et surtout beaucoup de force, et beaucoup elles étaient écoutées et crédibles. Et je me suis dit, en regardant ces événements,
des vrais Marianne,
mais ça marche, donc ça va aller. Et puis silence radio. Et je me suis dit, mais ça y est, les femmes se retournaient dans les cuisines. Et j'ai pensé, vous savez, j'ai beaucoup pensé à la guerre d'Algérie, quand les maquisardes sont montées dans les montagnes et défendre, à cette époque-là, combattre l'occupant. Et qu'après, eh bien, elles sont retournées tout paisiblement d'où elles étaient, et toujours avec cette invisibilité. Et mais je me suis dit, c'est pas possible. Ces femmes-là, elles existent. Je les ai vues, je les ai rencontrées. Elles ont montré qu'elles étaient attachées à la paix, qu'elles savaient parler, qu'elles savaient créer des médiations. Et donc, j'ai décidé de créer les Marianne de la diversité. Alors, Marianne pour l'unité républicaine, et diversité parce qu'elles étaient de cette diversité. Et ça a été un chemin magnifique, parce que d'abord, on a eu des personnes bien installées, des femmes d'un certain âge, puis les jeunes nous ont rejoints, et puis j'ai vu arriver une classe moyenne qui avait envie de changer les choses par elle-même. Alors c'est vrai qu'on était assez focalisé sur les droits des femmes proprement dit, mais vous savez, tout de suite, on a abordé la question plus globale de la diversité au sens le plus large. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette merveilleuse exposition, et qui a tourné dans beaucoup de collèges et de lycées, qui reliait à la fois le combat des femmes, décennie par décennie, on a commencé par 1900 et on a terminé par 2000, et le combat de l'immigration, si j'ose dire, parce qu'ils sont identiques, ils sont bien entremêlés. Sûr. Et ça a été un travail très très important.
Vous avez parlé de l'invisibilité des femmes immigrées. On disait il y a bien longtemps, il y a plus qu'invisible de l'immigration, du travail des hommes de l'immigration, c'est l'invisibilité des femmes. Et donc elles réapparaissent au travers ce que vous évoquez là, et cet engagement que vous avez avec les Marianne de la diversité. Mais est-ce que on les marginalise pas quand même, ces femmes, de manière générale? On les oublie quand même, les femmes de l'immigration. Alors, vous les faites sortir, mais on les a oubliées. On n'a pas reconnu qui elles étaient à part entière.
Vous avez un peu raison, c'est-à-dire que on est parti de finalement de ce double handicap qui est le genre, et qui est aussi d'être d'une discrimination ethnique ou parfois même religieuse. Et donc la vérité, c'est que vous avez raison, démographiquement elles sont majoritaires, ce sont les femmes qui sont majoritaires. Et j'ai mené une étude avec la MSA dans le sud, puisque j'étais directrice du Languedoc-Roussillon, et je me suis que les personnes, les seniors de cette région, ben c'était les femmes immigrées. C'est elles qui représentent le plus grand corpus, et elles ne sont pas représentées, elles ne sont pas écoutées. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup milité avec des associations généralistes, dirons-nous, des droits des femmes, et c'est vrai que la question de l'immigration était quelque chose de compliqué pour eux, hein, parce que ça donnait dans le spécifique, et puis il y avait le besoin de ne pas stigmatiser. Par exemple, on s'est un peu battu parce que au départ, quand on a voulu rentrer dans des associations de femmes, en général, on nous a dit, mais oui, vous, c'est les violences faites aux femmes. Parce que c'est comme si c'est votre patrimoine, c'est les mariages forcés, c'est l'excision, c'est les viols, c'est tout ce que l'on dit et qui est vrai. Mais on a dû se battre à l'intérieur, tout en reconnaissant qu'il y avait des vrais problèmes, mais de dire que la violence envers les femmes, elle appartient à tous toutes. Les partis, à toutes les classes sociales. On voit bien avec les événements de MeToo, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas en effet stigmatiser ces populations, mais il faut reconnaître qu'elles ont des spécificités. Et moi, je pense qu'une des spécificités, c'est quand même la question de l'emprise du religieux.
Juste sur les Marianne de la diversité, comment s'opère une initiative autour des Marianne de la diversité? Vous donnez rendez-vous aux femmes pour une... Il y a une consécration de représentation des femmes dans les quartiers.
On a regardé les choses et on s'est dit, est-ce qu'on va être une association de quartier? Cette question a été évacuée parce qu'il y en a tellement et elles font tellement bien leur travail. Et puis, c'est vrai que ça nécessite des locaux, du personnel. Moi, j'ai toujours pensé, parce que je suis quelqu'un qui a financé les associations, qu'il fallait des structures très souples de mission et qu'il ne fallait pas s'enquister dans un fonctionnement qui finalement était très compliqué. Donc, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de rehausser le travail qui est fait. Donc, on est les porte-voix de quelque chose. Je vous donne un exemple. Quand on s'est battu pour qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration, à l'époque, on nous disait, c'est n'importe quoi. Pensez à celles qui sont dans la précarité. Vous n'allez pas nous parler de celles qui sont dans les COMEX et dans les comités de direction et les comités exécutifs. On s'est battu là-dessus. La loi Copé-Silbermann a été annoncée lors de notre colloque sur l'entrepreneuriat au féminin. Et donc, on voit aujourd'hui les résultats, parce que entre nous, on voit bien que le poisson, il le pourrit par la tête. Et que si les dirigeants ne sont pas convaincus, c'est quand même difficile de faire les choses. On a commencé à travailler sur toutes les questions autour des violences faites aux femmes, bien évidemment. Et on fait en sorte que quand nos animations, par exemple des expos, on est beaucoup dans les outils culturels, se permettent de rehausser le travail de celles qui le font sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de tribunes, on a fait la charte de la diversité dans les partis politiques, on en parle là en ce moment.
Bon, on y reviendra dans
ah une, oui, et dans bah, on était de ceux qui les premiers avaient évoqué, comme on était quand même les premiers, heureusement aujourd'hui il y a beaucoup d'associations qui prennent le relais, sur la représentation dans les médias. Quelque chose qui me paraissait à l'époque, puisque j'étais moi-même à l'accès, que j'étais directrice de la culture et des médias, je me disais c'est pas possible qu'il y ait finalement ce déficit de représentation des femmes.
Alors pour parler de la représentation des femmes, on reviendra dans la dernière partie de l'émission, justement, à la fois sur la représentation des femmes en politique en général, et en particulier avec le vôtre, puisque tout ce que vous nous dites là est votre histoire à la fois singulière dans l'engagement associatif, citoyen, mais vous avez un profond engagement depuis plus de 30 ans, un engagement politique, et ça aussi, ça a été pour aller plus loin dans l'engagement associatif et dans l'engagement citoyen que de s'engager en politique.
Vous avez raison, la vie associative est un levier, et souvent les partis politiques se nourrissent de la vie associative pour trouver leurs militants. Moi j'ai fait un choix, alors peut-être que j'ai intériorisé toutes les contraintes qu'on m'avait éduquées, mais je pensais qu'on ne pouvait pas faire de politique si on n'avait pas élevé ses enfants, parce que je sais que c'est chronophage et que c'est quand même une représentation très difficile. Donc j'ai d'abord, et puis j'avais un deuxième engagement, c'est que je ne voulais pas vivre de la politique. Donc j'ai d'abord construit un parcours professionnel, indépendant de la politique. J'ai élevé mes enfants et quand ils ont eu un âge raisonnable, j'ai dit, et c'est pour ça que je suis arrivée très tardivement dans la politique, j'étais un peu comme une ovni. Et c'est vrai que là, j'ai découvert un monde difficile, hein, pour employer des euphémismes, mais en même temps passionnant, parce que je voyais bien les limites de la vie associative. À un moment donné, vous interpellez, vous proposez, mais en définitive, vous n'avez pas la décision.
Et vous n'êtes pas entendu quelquefois. On y reviendra peut-être. Vous nous expliquerez tout à fait cet engagement politique et chevillé au corps comme l'engagement associatif et citoyen. On vous retrouve dans un instant. Fadela Méal.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Fadela Méal, elle est l'invitée de ce Voix au chapitre ce dimanche. Le plaisir de l'accueillir. Toute une grande partie de notre rencontre, Fadela Méal, vous nous évoquez votre parcours associatif, militant, sur le terrain, attaché à des valeurs, hein, qui sont des valeurs de la République, hein, les valeurs d'émancipation pour les femmes, des droits des femmes, etc. Mais l'engagement plus qu'associatif, il devient sur le tard, vous l'avez dit aussi, politique. C'est essentiel pour vous, votre carrière politique, elle est essentielle, hein, vous essayez dans la politique, et puis vous vous construisez ensuite. Comment est arrivée
cette démarche politique? Vous avez raison. D'abord, la politique, c'est le marchepied finalement dans l'associatif, et donc c'est un vivier considérable, la vie associative pour tous les partis. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, c'est bien d'interpeller, c'est bien d'être la mouche du coche, mais en réalité, on ne prend jamais de décision. Parfois, on n'est même pas entendu. Et donc, il fallait passer à ce stade-là. Et donc, c'était l'époque où on avait besoin des femmes, parce qu'il y avait les lois qui avaient commencé à faire leur chemin. Et je me suis rendu compte que c'était quand même le plus âpre des chemins, hein. Ni professionnellement, ni même associativement, c'était aussi difficile. D'abord parce que il fallait être légitime, toujours. C'est-à-dire que, vous savez, quand un poste se définit, député, conseillère municipale, ben vous candidatez, comme ça se fait dans les partis traditionnels. Et là, par magie, les femmes se justifient, toujours. Un homme, il dit « je suis candidat ». Une femme dit « je suis candidat parce que je pense que c'est important, que j'ai telle compétence, que j'ai... » Donc ça m'a toujours surpris. Je me suis dit pourquoi elles ont toujours... J'ai eu l'impression qu'elles étaient, comme on dit, avec une égalité sous condition. Et puis après...
Souvent on veut les assigner, je vous interromps.
Voilà, mais c'est
souvent
la deuxième...
Souvent on veut les assigner à s'occuper des droits des femmes,
c'est la deuxième,
de la petite enfance.
C'est ma deuxième réflexion. C'est-à-dire que je me suis dit, d'abord il y a le fameux plafond de verre, et puis il y a ce que vous appelez tout à l'heure, ce que vous décriviez, les parois de verre, c'est-à-dire que bon, eh bien, il faut que vous d'abord vous expliquiez pourquoi vous voulez le faire, et deuxièmement, ça serait bien que vous puissiez en effet vous occuper de l'éducation, vous occuper du programme familial, vous occuper. Jamais on vous proposera
de
travailler sur la voirie, sur le budget. Alors là, le budget prestigieux qui est le mantra de tous les politiques. Donc ça n'existait pas. Mais bon, alors moi j'ai eu une chance énorme, c'est qu'il fut une époque où il y avait la mode de la diversité. Donc, et j'ai souvent l'habitude de dire, vous savez, en mathématiques, 2 moins, ça fait 1+. Et ben nous c'est pareil, c'est-à-dire quand on était femme issue de la diversité, eh bien on avait des places plus ouvertes. Parce que moi j'ai un député que j'ai interrogé une fois en disant, mais pourquoi il y a plus de femmes de la diversité que d'hommes? Alors il me dit, mais on va pas se faire à harakiri deux fois, donc là vous avez le quota, et j'avais presque ajouté, si vous êtes handicapé c'est encore un peu mieux, vous pouvez prendre la place. Mais paradoxalement, c'est tous des femmes qui arrivaient de la société civile, d'ailleurs moi je suis arrivée par la société civile, c'est-à-dire elles font un tour et puis elles s'en vont, puisqu'on les change, puisqu'on sait bien qu'en politique, le vrai enracinement, c'est l'enracinement politique dans un parti avec toutes les instances que vous pouvez. D'ailleurs, et j'observe qu'à l'époque, beaucoup venaient de la société civile, mais que maintenant, les choses ont beaucoup changé. Il y a quand même des figures assez emblématiques de la diversité qui aujourd'hui ont fait du chemin, qui ont de vraies responsabilités. Je pense à Najed Vallaud-Belkacem, à Rachida Dati, à d'autres qui aujourd'hui
ont été dans les plus hautes sphères de la politique.
Voilà, voilà, et française. Qui ont pris du temps. Et qui se sont enracinés dans les partis et qui, du coup, ne sont pas des variables d'ajustement et peuvent avoir un parcours, en effet, un peu plus inscrit dans la durée.
Mais vous aussi, vous êtes installée dans la durée, Fadela Méal.
Tout à fait.
Quand vous avez été à la direction du MoDem, vous avez
été élue d'un
arrondissement parisien, avez des vraies responsabilités politiques.
Oui, j'étais au bureau exécutif de François Bayrou. Il y avait même à l'époque une création du SADOS cabinet où j'en faisais partie. C'était un peu le gouvernement des démocrates. Oui, j'ai pris ce parti. J'étais arrivée par les Mariannes de la diversité, sur le volet associatif, mais très vite j'ai compris qu'il fallait vraiment que je trouve cette légitimité au sein de mon parti. Moi je suis centriste et humaniste, donc naturellement mes yeux se sont tournés vers ce parti.
Ensuite vous êtes élue
dans
une mairie d'arrondissement, dans le 18e arrondissement.
Oui.
Et là vous avez le sentiment d'être en politique et en même temps sur le terrain, sur ce quartier, sur cet arrondissement parisien.
C'est un arrondissement qui me ressemble.
Bien sûr, oui.
Qui me ressemble, vous savez que c'est l'immigration algérienne la plus présente dans cet arrondissement.
La Goutte d'Or,
tout le monde connaît Barbès, Goutte d'Or. Et puis surtout, j'étais en même temps à l'époque encore directrice de la culture, j'ai été nommée, enfin élue même, présidente de la commission culture mémoire et patrimoine de Paris. Donc c'était une commission très prestigieuse et j'étais très honorée de travailler sur les sujets. D'ailleurs, je vois qu'Emmanuel Macron a beaucoup travaillé sur finalement la capacité des villes à prendre en compte le patrimoine, et je sais que vous êtes très attachée à cette question mémorielle avec les noms des villes et des rues. J'étais une des premières à inscrire des noms de rues de personnes issues de l'immigration à Paris. À l'époque, c'était quand même un peu difficile. Et j'ai participé aussi à rehausser certains que je pensais des artistes, que je pensais tout à fait importants pour Paris. Je pense à Siege Bar. À Siege Bar, j'ai milité pour qu'elle ait sa bibliothèque.
Une grande médiathèque dans le 20e arrondissement.
Dans le 20e arrondissement. On a fait un très beau colloque au Petit Palais, donc qui est vraiment un lieu d'un musée prestigieux. Et donc, je pense que la question culturelle, moi, elle me taraude. D'ailleurs, on voit qu'elle revient en boomerang sur beaucoup de questions. Mais j'ai eu l'impression, oui, d'avoir, en effet, travaillé.
En même temps,
j'étais dans l'opposition d'une certaine façon. Mais j'avais avec la maire de Paris des relations de confiance pour Penet, parce que c'est des combats, j'allais dire, un peu transversaux.
Transversaux, absolument. Hein,
quand vous évoquez la question des mémoires, la question des discriminations, il y avait quand même des choses qui
sur lesquelles vous pouviez vous retrouver. Vous parliez à l'imparfait quand vous parlez politique, là. Vous dites j'avais. Vous en êtes où aujourd'hui de votre engagement et votre vie politique?
Oui, je pense que je fais comme beaucoup.
Vous êtes moins parisienne maintenant.
Ouais, je suis moins parisienne parce que
j'ai. On ne sait pas s'arrêter.
Voilà. Je pense très honnêtement qu'il y a eu un cycle, et puis le Covid a beaucoup déréglé et nous a réinterrogé sur nos priorités, sur nos pratiques. Donc je veux reprendre un train de vie qui me permettent de faire vraiment sur des missions ponctuelles des choses sur lesquelles et notamment le fait d'écrire, peut-être écrire un livre, faire un film, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'enthousiasme. Et puis sur le politique, par contre, je continuerai à peser quand je vois ce qui est en train de se faire par rapport à une extrême droite, une droite extrême la plus belliqueuse et la plus virulente sur nos questions. Oui, je ne resterai pas inactive.
Et votre engagement, il va se formuler avec la poursuite de ces Mariannes de la
Sûr. Ça, c'est sûr que sur ce champ-là, j'ai énormément de projets. Je vous donne rendez-vous au 18 janvier à l'Assemblée nationale, puisqu'on va faire un colloque sur le monde d'après et la vision des femmes dans les médias sur cette question-là. Donc, j'ai un autre sur le patrimoine et la préservation du patrimoine. Je travaille d'ailleurs avec Barisa Carré sur le sujet. Non, les Mariannes de la diversité, elles sont plus que jamais debout, elles sont résilientes et surtout elles sont combatives.
Merci beaucoup Fadela Méal d'être venue ce dimanche à Beurre FM nous présenter tout cet engagement, toute cette passion. Vous êtes infatigable donc.
Je continue, mais avec l'âge, maintenant j'ai transformé la passion en sagesse.
Merci infiniment d'être venue jusqu'à nous à Beurre FM ce dimanche matin. Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.